Bonjour Vicky R.
Bonjour.
Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie. Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter, mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête?
On y va.
Vicky, ta date de naissance?
19 août 1996.
La ville où tu as grandi?
Lille.
L'endroit préféré de ton enfance?
Le Gabon.
L'âge auquel tu as commencé la musique?
12 ans.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Timbaland.
Ton premier succès?
Lego.
Le nom d'un titre que tu n'as jamais sorti?
Je veux briller.
Ton feat de rêve?
Travis Scott.
On passe en stase. Vicky R, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que t'aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
Franchement oui, pour plus profiter de certains instants. Par exemple, quand je suis sur scène et qu'il se passe un truc de ouf, je suis tellement concentrée que j'ai pas le temps des fois de réaliser ce qui vient de se passer.
Comme quoi par exemple? Il y a quoi qui s'est passé de ouf sur scène?
Là récemment, j'ai joué au Zénith de Nantes en première partie d'MC Solar. C'est super grand comme salle. Et c'est trop bien de voir les gens réagir positivement à sa musique et juste qu'ils vibe quoi, et de prendre le temps de les regarder.
On va parler de MC Solar un peu plus tard. Lobby est sorti en mars dernier, c'est ton dernier EP, on va citer les quatre featuring, Edge, Anaïs Cardo, Turi et donc MC Solar. Un lobby, c'est un hall d'entrée, c'est un endroit de passage. Pourquoi avoir choisi ce nom?
Pour le double sens, parce que c'est une suite à mon précédent projet, du coup, Système, et pour exprimer aussi le fait que je suis un peu dans l'antichambre, je suis dans une salle d'attente de la manière à laquelle ma carrière devrait évoluer et de l'accomplissement, et je pense de certains choix que j'ai pu faire, en vrai, au moment de la composition, et juste de la suite pour moi, j'ai hâte de voir.
T'es dans un sas.
Ouais, j'attends.
Est-ce que c'est tant une suite à ton précédent album, ou peut-être même une sorte d'intro au futur projet?
Je pense que c'est une intro au futur projet parce qu'il y a beaucoup de choix qui ont été faits dans la conception de Lobby, des choix musicaux qui sont assumés, peut-être pas compris par tout le monde, mais il y a eu un shift en tout cas de mon côté. J'ai l'impression d'avoir trouvé un son que je cherchais depuis un moment et ça c'est vraiment le plus important pour moi.
Tu parles d'une incompréhension, sur quel point?
Sur le choix des musiques qui sont mises en avant, en fait, c'est un peu... tout au long de ma carrière, parce que justement j'ai commencé super tôt, il y a toujours une forme de dualité en fait entre les personnes qui attendaient un certain type de musique de ma part et la musique que je faisais plus tôt en fait. Et ces deux-là s'opposent sans cesse, et Lobby c'est encore pour venir du coup affirmer ce choix-là en fait, que je vais jamais faire ce qu'on attend de moi, mais plutôt choisir ce que moi je décide de faire.
J'allais y venir, j'ai plutôt même l'impression que dans cette EP, il y en a pour tout le monde en fait. Tu montres un peu ces deux facettes de toi.
Oui, il y en a pour tout le monde, mais les gens ne sont jamais vraiment satisfaits. Parce que quand l'EP est sorti, on a eu de très bons retours, notamment sur les feats, sur la musique, sur la qualité du projet. Mais il y a toujours cette phrase qui dit « Ouais, j'aurais aimé t'entendre rapper un peu plus ».
Je trouve qu'on t'entend assez rapper, c'est curieux ça.
Moi aussi, je trouve. Je trouve que c'est suffisant, en tout cas. Par rapport à ce que je raconte dans le projet et l'esprit général du projet, oui, je trouve que c'est suffisant et que des sons très avaient pas forcément leur place là, parce que c'est un projet introspectif aussi, c'est un projet de remise en question, c'est un projet mature, et je trouvais que l'ego trip, en tout cas trop, n'avait pas forcément sa place dans ce projet là. C'est pas ce que j'avais envie de raconter, c'est pas ce que je ressentais pendant la conception.
Alors effectivement, il y a deux titres personnellement, je trouve, qui se démarquent et se différencient du reste de l'EP. Ce sont Miles, c'est l'interlude, qui porte bien son nom du coup, avec Anaïs Cardo, et Danser dans les flammes avec Turi.
C'est ça.
Là, ils sont moins rap dans les sonorités, plus personnels, parfois plus graves. Mais c'est une habitude que tu as prise dans tes précédents projets aussi, parce que tu vois, dans Système, il y a le temps qui marque cette respiration. J'ai l'impression que c'est important pour toi de toujours mettre des titres qui contrastent un peu, qui te permettent, on dirait même, de pouvoir t'exprimer un peu plus.
Oui, ces morceaux-là, c'est des thérapies, tu vois. Tu parles du temps, le temps c'est un morceau dans lequel je parle du décès de ma maman, et j'avais jamais eu l'occasion de vraiment en parler de manière explicite dans ma musique, et c'était important pour moi de le faire à ce moment-là, parce que thérapie, en fait. J'avais besoin de me libérer de certaines choses. Miles, c'est beaucoup plus la nostalgie du temps passé, la distance, le fait de vivre à distance de sa famille. J'ai de la famille ici, mais on va dire les 80% de ma famille vit au Gabon. Et je suis loin d'eux et c'est pas facile tous les jours. Et c'est un moyen de leur dire bah, qu'il me manque, que je pense à eux. Et de l'inscrire dans un moment. Et Danser dans les flammes, pareil, c'est un morceau qui rejoint plus, on va dire, l'état d'esprit de le temps. Parce que pendant la conception du projet, et même un peu avant, j'ai perdu mon grand frère. Et c'est un morceau dans lequel j'en parle, mais pas encore de manière explicite. Il y a des bribes de ce moment-là. Et je pense que dans le prochain projet, je réussirai à en parler un peu plus. Ce sera un peu moins frais, on va dire.
Mais tu vois, tu m'as devancé parce que j'avais déjà écrit des questions qui allaient sur ça. Mais je voulais, non, il n'y a pas de souci, hein, très bien. Hein, moi, je voulais revenir sur Miles parce que même quand tu le partages sur les réseaux, tu dis que c'est un titre spécial à tes yeux. Et j'allais te demander dans quelle mesure. Tu as un peu répondu.
C'est ça.
C'est par rapport à la distance. Mais quand même, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que c'est venu avec le temps de faire des titres qui sont plus personnels? Est-ce qu'avant, il y avait une pudeur dont il a fallu se détacher?
Oui, totalement. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, hein, en général. Je suis très, très pudique, très discrète, sur tout, ce qui concerne ma vie privée, etc., en général. Et je trouve que, quand on est un artiste, c'est important de donner certains moments de vulnérabilité pour montrer bah, qu'on est des humains, comme tout le monde, et qu'il y a des moments où ça va pas. Et c'est important de mettre des mots dessus. C'est des choses que j'ai apprises toute l'année dernière, en fait, parce que j'ai fait des choses que j'avais jamais fait. Tu vois, par exemple, je suis allée voir un psy et je sais que c'est des choses qui sont pas mal taboues. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce qu'on parlait beaucoup de la santé mentale des artistes et je me rendais compte en discutant, en fait, avec d'autres collègues artistes aussi, bah, que c'était archi normal d'y aller quand on en ressentait le besoin, de parler à quelqu'un qui est pas forcément proche de notre entourage, qui a du recul sur la situation et nous permettre de mettre des mots sur tout ça. Donc oui, c'est dans ces contextes-là que je fais ce genre de titre-là pour dire que bah, j'ai ma part de vulnérabilité, j'en parle pas tout le temps parce que je suis comme ça, mais que là, en fait, je vous fais confiance et je le fais en musique parce que c'est mon métier, parce que pour moi c'est la meilleure manière de pouvoir le faire.
Effectivement, tu abordes un point qui est assez important, c'est la santé mentale des artistes.
Ouais.
D'expérience, beaucoup d'artistes que j'ai interviewés m'ont parlé d'un sentiment de solitude,
ouais,
qui est plus ou moins latent. Est-ce que tu partages ce sentiment-là?
Bah oui, en vrai c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti parce que quand on est artiste, on est beaucoup entouré, il y a tout le temps des gens avec nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent donner leur avis sur tout ce qu'il y a autour de nous, sur tout ce qu'on fait. Mais à la fin de la journée, c'est nous qui sommes le visage de ces projets-là. Vicaire, je dis souvent que c'est un projet, parce que Vicaire, c'est pas que moi, c'est toutes les personnes qui sont derrière, qui s'investissent. Sauf que si demain Vicaire a une sauce, bah, on va pas voir toutes les personnes qui sont derrière. La première personne qui va être attaquée, c'est ma personne. Alors qu'il y a plein de gens, derrière. Et pour moi, la solitude arrive dans ces moments-là. Où parfois, quand on ressent des choses, des frustrations, qu'on a du mal à les exprimer. La solitude aussi arrive à ce moment-là. Après, j'ai de la chance parce que j'estime être super bien entourée. J'estime avoir la possibilité de parler. Juste des fois, je ne le fais pas parce que je suis comme ça. Je suis une extravertie, introvertie.
Oui.
Je suis les deux en même temps. Ça dépend juste des moments. Voilà.
Oui, parce que là, ce que tu précises, effectivement, on parle de solitude. Mais ce qui est particulier avec les artistes, c'est qu'il y a vraiment ce paradoxe où ils sont en permanence entourés. Tu es en permanence entourée,
mm-hmm,
mais au bout du compte, qui est vraiment là, qui te fait sentir vraiment accompagné.
C'est ça.
Qui autour de toi te permet un peu de respirer, de te confier, de relâcher un peu la pression?
En vrai, j'ai mes deux chefs de projet qui sont là. J'ai ma sœur. Ma sœur, c'est la personne... dès que ça va pas, j'appelle ma sœur. Je parle avec elle au moins 5 à 6 fois par jour, vraiment. Tous les jours, le matin, à midi, on va s'appeler. Ça peut durer 10 secondes. Hein. Mais donc voilà, il y a ma sœur. Je suis très famille aussi. J'ai plein de neveux et de nièces, donc quand ça va pas, je prends un train, je vais à Lille, je vais m'occuper de mes neveux et de ma nièce, et ça me fait penser à autre chose. Tu vois, ça me recentre, et c'est des choses qui sont super importantes et que je devrais plus faire. En tout cas, j'essaie de plus le faire. Ouais. Juste aller passer du temps avec ma famille, parler d'autres choses, pas forcément de musique, ou juste être posé avec mes potes, jouer à la Switch ou rien faire. Juste, on est tous ensemble et on fait rien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est mettre en parenthèse la musique.
C'est ça.
Rien, hein.
Ouais.
Danser dans les flammes, le feat avec Turi, donc là aussi on en a un peu parlé, dans lequel vous deux, hein, vous vous livrez sur les obstacles et les épreuves que vous avez affrontées dans la vie. On parle même parfois de fardeau. Pour toi, quels ont été les plus grands défis à relever?
je pense que c'est de me construire en tant que femme. Justement, je te disais tout à l'heure que j'ai grandi devant les yeux des gens, en fait. Je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans. Mon premier hit national, je l'ai eu à 16 ans. Et toute ma carrière, en fait, il y a toujours eu des gens qui étaient là et qui regardaient et qui m'ont vu construire mon identité en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. Donc déjà, ça, c'est super difficile parce qu'il y a des personnes qui jugent, qui ne te connaissent pas vraiment. Tu sais, moi, des fois, il y a un jour, je me suis levée. Ça date, hein, mais je parle souvent de cette anecdote-là parce que ça m'avait vraiment choquée. Je me suis levée, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu une photo de moi avec une croix sur le visage. Et ouais, Vicky R et tout. Et je me disais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc il y a des trucs comme ça. Il y a tout ce qui est décès, etc. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 16 ans. Donc, c'est assez compliqué. Et à vivre, en fait, parce que c'est un rôle modèle qui s'en va. Et ouais, difficile de se construire avec ce genre d'épreuve. Mais encore une fois, tu vois, toujours bien entouré, très, très terre à terre. Je relativise toujours, je suis une grande optimiste et j'essaie toujours de regarder devant. Dans tout ce que j'entreprends, je regarde devant et juste aussi, je suis très croyante. Donc, je prie.
Il y a la foi qui te tient un
ouais,
peu.
Ouais, beaucoup.
Vicky R, il est temps d'explorer ton passé. Donc, tu es né à Libreville, au Gabon.
Oui, c'est ça.
Il y a quelques minutes, tu m'as dit que l'endroit préféré de ton enfance, c'était le Gabon.
Ouais.
Alors, pourquoi?
Parce que c'est chez moi. C'est là-bas que c'est là-bas que tout commence. Et j'y suis très attachée.
Fille de militaire?
Oui.
Comment ça se passait à la maison?
Très droit. Très droit, mais c'était cool. En vrai, c'était cool, juste mais mon père militaire, donc c'est la rigueur. On doit savoir où on va, mais en même temps, on a la... l'espace de faire un peu ce qu'on veut. Moi, j'estime que j'ai eu de la chance parce que je suis la dernière et c'était beaucoup plus difficile, je pense, pour mes frères et sœurs, donc mes aînés. Moi, je suis arrivée, mon père, il était déjà un peu plus soft, donc ça va.
Souvent, ça se passe comme ça. Hein. Les aînés prennent toutes les règles les plus strictes.
Tout, voilà.
Et puis après, les derniers...
C'est ça. Donc moi, en vrai, je m'en sors bien.
Alors, on va le préciser. Effectivement, tu es la toute dernière de la fratrie. Vous étiez 7 enfants. Oui. Comment on arrive à trouver sa place dans la famille? Parce qu'il me semble qu'en plus, il y a un petit égardage significatif.
Ouais, j'étais la dernière, donc ça allait. J'étais assez indépendante en vrai, tôt. Du peu que je me souvienne en vrai de mon enfance aussi, mes parents, vu que j'étais la dernière, ma sœur, elle est partie très tôt. Après, il y avait les garçons qui étaient, c'était des garçons, quoi. Donc moi, j'étais la petite fille, la petite dernière. Ma mère, elle disait tout le temps, Vicky, c'est mon sac à main. Donc dès qu'elle pouvait, elle m'emmenait par-ci, par-là. Quand elle voyageait, si elle pouvait venir me chercher, on voyageait. Donc... Ça a été assez facile et j'ai très tôt eu envie de faire des choses que mes frères et sœurs ne faisaient pas. Tu vois, mes frères, c'était des garçons, c'était le foot, etc. J'ai un frère qui a été en prétendue militaire. Ma sœur, elle aussi, c'était encore un autre parcours. Donc moi, tout de suite, j'étais très tôt intéressée par l'informatique, les ordinateurs, les geeks. C'est moi la petite geek en vrai. Tu vois, les jeux vidéo grâce à mes frères, la musique. Tout de suite, très tôt aussi. Et ma mère, dès qu'elle pouvait, elle m'emmenait dans ces trucs comme ça. Et c'est des choses qui ont participé à mon éveil, en vrai.
On va parler de l'introduction à la musique un peu plus tard. Tu arrives en France à 10-11 ans, il me semble.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui a provoqué ce départ du Gabon vers la France? Et toi, comment tu l'as vécu?
En fait, je venais assez souvent pour les vacances ici. Et vu que mon père, déjà, il voyageait beaucoup. Donc, quand il n'était pas là et que ma mère aussi n'était pas là, donc elle me prenait avec elle. Ma sœur, quand elle a eu son bac, elle est venue faire ses études en France, donc à Lille notamment. Et il y a juste un été, je suis venue. J'ai passé mon été comme tout le monde. Et septembre et tout, je regarde et je dis à ma mère, l'école commence bientôt, on rentre quand? Elle m'a dit, ouais, non, toi, tu rentres pas.
Toi, tu rentres pas.
Ouais. Elle m'a dit, tu rentres pas, tu restes ici. Comment ça, je reste ici? Ah ouais, non, mais en plus, tu commences les cours lundi. D'ailleurs, viens, on détache tes cheveux, on va te tresser. Ça s'est vraiment passé comme ça et donc juste je suis restée, moi j'étais inscrite à l'école et en fait j'ai appris plus tard que c'est parce que ma mère devait faire une formation pour son travail et du coup donc elle voulait pas que je reste, étant la dernière, que je reste toute seule au Gabon. Et en fait ce qu'elle m'a fait, c'est que quand elle m'a inscrite, elle est repartie quelques mois et après elle est revenue du coup sur la France. Elle est restée un an avec moi, toute mon année de 6e, j'avais ma mère avec moi pour mon intégration, etc., tout ça. Et après, je suis resté, ça se passait bien, donc je suis resté.
Pourquoi, c'est une question un peu naïve, mais pourquoi ne pas t'avoir prévenu plus tôt?
Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que j'étais vraiment prise de court, mais je pense que peut-être pour pas m'inquiéter, mais ça m'a inquiété de ouf.
Parce que là, si c'est pas de l'inquiétude, c'est de la panique, parce ouais. qu'il y a le temps qui presse.
Oui, mais en plus, tu sais, moi, je suis enfant, je me dis, j'ai dit à mes amis que je partais un mois en France et que je revenais à la fin des vacances. Donc ouais, je suis restée. Et quand je suis restée, j'ai fait deux ans sans repartir au Gabon. Je suis reparti qu'en 2010.
Et bien sûr. Parce que quand on part comme ça, on n'a pas le temps de dire au revoir.
Non. Et moi, je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça, à mes amis que j'ai laissés. Je ne leur ai pas dit au revoir. En même temps, j'étais super jeune, donc j'avais pas encore. Je ne calculais pas vraiment Internet, tout ça, tu vois. Sans plus, en fait, on était des enfants. On jouait encore tous ensemble dehors, etc. Tout ça. Internet, c'est bien après, quoi.
Résumons. Il y a ces vacances d'été qui n'en sont pas.
Ouais.
Voilà. Ou tu ne dis pas au revoir à tes amis.
Ouais.
Ou une nouvelle vie doit commencer. Tu n'as pas le choix.
Ouais.
Tu parlais d'intégration il y a quelques minutes. Et justement, cette intégration, comment s'est-elle passée?
Franchement, les premiers mois, c'était super difficile parce que je découvrais une autre dynamique. Mais après, j'étais avec ma sœur, donc ça allait. Elle m'a beaucoup accompagnée dans ce processus-là. Ensuite, ma mère est revenue. Mais c'était différent. C'était différent d'être à l'école ici. En fait, c'est comme si je repartais de zéro. Je devais me refaire des amis puisque j'avais pas d'amis de mon âge. Donc ça a été ça le plus difficile, mais en vrai je me suis intégrée super vite. Au bout de 2 mois, j'avais déjà plein de potes. On est en 6e, donc en vrai ça va super vite.
Ah, parce qu'en plus il y a ce changement là, on passe de la primaire au collège.
Ouais.
Ah oui, mais toi t'as tout eu en fait.
Ouf,
la
totale.
Vraiment le changement le plus drastique qui puisse arriver, quoi.
La totale.
Tu partages des similarités avec un artiste que j'ai reçu avant toi, c'est Benjamin Epps.
Ouais.
Lui aussi né en 96, lui aussi né à Libreville, lui aussi le dernier de la fratrie. Mais lui, en revanche, il s'est mis au rap parce que ses grands frères étaient déjà dedans.
Mm-hmm.
Mais toi, comment s'est passée ta rencontre avec le rap et la musique? T'as parlé de l'informatique au début.
C'est ça. Moi, ma rencontre avec la musique, ça a été par le beatmaking. J'ai plein de musiciens dans ma famille, mais c'est des gens que je voyais un peu de loin, de temps en temps, tout ça. Mais la vraie rencontre, c'est avec le beatmaking. Du coup, quand j'arrive en France, j'ai un de mes cousins qui, une après-midi, ma sœur, elle était occupée, donc il me dit, viens, je te prends avec moi, tout ça, on va aller se balader. Et il m'emmène dans un studio d'enregistrement à Lille, et j'assiste pour la première fois. C'était pas la première fois que j'allais dans un studio, j'y étais déjà allée au Gabon, mais c'est la première fois que j'assiste à une vraie session studio où les gens sont là, ils composent, ça écrit des chansons, etc. Et moi, tout de suite, je suis super interloqué parce que je vois, mais surtout par un des compositeurs qui est là, qui touche un logiciel, et je savais pas trop ce que c'était. Donc je les regarde faire, etc. À la fin de la session, je demande à mon cousin, je lui dis, oui, est-ce que tu peux me donner le logiciel qu'ils utilisaient, qu'est-ce que c'est? Je leur pose des questions, donc il me dit c'est Fruity Loops, c'est un logiciel de MAO, donc musique assistée par ordinateur. Il dit ok, donc il met le logiciel sur une clé, on rentre chez lui, j'avais mon ordi. Il me l'installe, il me montre un peu les bases, mais sans vraiment me montrer. Et moi, je rentre, ensuite, il me dépose et Geek, YouTube, tu vois, je commence à faire des recherches sur le logiciel. Je regarde un peu les boutons, il y avait trop de boutons. Donc, je me dis à quoi correspond chaque bouton, je recherche. Et c'est comme ça que j'apprends un peu en autodidacte, en vrai, à faire des prods. Ça m'a pris 2 ans pour vraiment faire une vraie prod. Je faisais des loops, ça ressemblait à rien du tout. Et tout part de là. J'ai accès à Internet maintenant, parce qu'en fait, à l'école, tu vois, on est en 6e, c'était MSN à l'époque. Donc, pour garder contact avec ses potes, on était tous sur MSN, vu qu'on avait des forfaits avec des SMS comptés, etc. J'ai la possibilité, du coup, de faire des recherches. Je commence à faire des prods. Je m'inscris sur Facebook. C'était aussi l'arrivée, le pic un peu à l'époque. Je me crée une page. Tout ça, un peu comme ça, je suis un peu le flow, quoi, tu vois. Et je fais des prods, je me dis, je vais essayer de les publier. Donc, c'était sur Reverb Nation à l'époque. Je commence à publier mes prods, je prends contact avec des gens au Gabon, etc. Je les spam. Et je me dis, ok, je vais m'appeler Vicky Beatmaker. C'était ça mon premier nom, genre, de musicienne. Donc, je crée une page sur Facebook. Il y a des gens qui s'abonnent, j'envoie un peu des prods, j'essaie de rentrer en contact avec des artistes. Et tout part de là. Moi, ma rencontre, c'est vraiment par le beatmaking. Et c'est seulement 2 ans après. Justement, les 2 ans que je te disais qui m'a fallu pour l'apprentissage, je commence à écrire un peu des lines, des trucs comme ça. Chaque fois, je dis que chaque beatmaker s'essaie forcément un moment sur ses prods. Et je commence à écrire des trucs sans pour autant me dire que, ok, je vais devenir rappeuse, mais juste je teste dans ma chambre.
Fruity Loops, pour les plus jeunes, c'est FL Studio.
FL Studio, c'est ça.
Comment ta famille accueille cette passion pour la musique et le beatmaking?
ah, ils sont en mode ah ok, c'est intéressant ce que tu fais. Ils se rendent pas vraiment compte, ils savent pas trop ce que c'est en fait. Mes parents, ils disent bon, c'est un truc, il y a plein de boutons, etc. Tout devient vraiment concret quand je repars au Gabon du coup en 2010. Et il y a un monsieur qui s'appelle Didier Don d'Afreshman, qui est le directeur aujourd'hui d'Urban FM. Au Gabon, c'est la plus grosse radio urbaine, que je spammais à l'époque. En fait, je lui envoyais plein de mails. Je disais, ouais, je suis beatmakeuse. Il a un label qui s'appelait Traumatique. Je veux placer des prods, etc. Je l'ai spammé. Et en fait, quand je suis allé au Gabon, les deux ans après, justement, de 2008 à 2010, je ne rentre pas, je retourne en 2010. Je vais assister à un concert et je le croise par hasard. Et il me dit, mais c'est toi, Vicky, qui m'envoie des trucs et tout ça, machin. Je dis, oui, il me dit, tu es là combien de temps? Je dis, bah, je suis là encore quelques semaines. Je rentre en France et tout. Il me dit, ouais, prends mon numéro de téléphone, envoie-moi un message. C'était un vendredi, il me dit, ouais, dimanche, on vient chez toi. Je dis, on et tout. Il me dit, ouais, il me dit, je vais venir chez toi avec la télé dimanche. Et du coup, donc, j'envoie et tout. Et le dimanche, il vient vraiment chez moi avec des caméras de la première chaîne nationale du Gabon. Et il me filme. Ils me font une interview, ils me posent des questions. Je vais chercher mon ordi. J'ouvre, j'explique que, bah voilà, elle fait le studio, tout ça. Je montre l'interface. Il me dit, ouais, est-ce que tu peux faire une prod devant nous? Du coup, bah oui. Donc, je compose et tout. Les films, ils sont ah, et tout. Ok, c'est bien, Vicky. Est-ce que tu peux nous donner un numéro sur lequel te joindre? Donc, moi, je donne le numéro de ma mère, sans vraiment calculer et tout. Et l'interview, elle passe à la télé. Et ma mère, son téléphone explose. Il y a tout le monde qui appelle. Tout le monde qui appelle. Et c'est là où ils se disent oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est là où mes parents se rendent vraiment compte qu'il se passe un truc de ouf. Et la même année, les mêmes vacances, je rencontre la team de Sean Paul, qui était au Gabon.
Rien que ça.
Ouais. Et ils me disent, ouais, est-ce que tu veux faire des prods pour Sean Paul et tout? Donc, je prépare un CD, etc. Pour remettre. Il y a même Sean Paul, qui appelle. Genre, je le vois en visio, etc. Avec une dame qui s'occupait un peu des relations avec les artistes américains à l'époque, qui les faisait beaucoup venir au Gabon. Et donc, ma mère, en fait, elle entend parler de sommes, de trucs. Et en fait, elle en parle à mon père. Et mon père, il est en mode, ouais, mais calmez-vous, elle est jeune, etc. Tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent un peu rentrer dans la loupe, et eux tout de suite bah ils verrouillent en fait. Et c'est comme ça qu'ils prennent vraiment conscience qu'il se passe quelque chose. Et juste après, bah moi je suis jeune, je rentre parce que je dois reprendre les cours, et je laisse un peu tout ça derrière moi. Et ça a toujours été des gros événements comme ça tout au long.
Effectivement, oui, parce que ton premier morceau arrive rapidement, 2013.
Ouais,
l'année de tes 17 ans.
C'est ça.
Voilà. Je sais pas si tu les avais tout à fait encore.
J'allais les avoir.
T'allais les avoir, hein. Donc c'est Lego, premier morceau. Et premier succès,
c'est ça
aussi. Quand tu me racontes tout ça, voilà, il y a ce titre qui sort, il y a la télévision nationale qui déboule chez toi, l'équipe de Sean Paul, etc. Est-ce que ça peut être un piège d'avoir un morceau et un début qui fonctionne d'emblée? Est-ce que ça peut donner l'illusion que faire de la musique, c'est pas si compliqué?
Bah oui, parce que moi j'ai pas compris en fait. Tu sais, du coup 2010, je rentre, il se passe deux ans. En 2012, ma maman décède en 2012. Donc je suis dans tout ça, tu vois, je suis en troisième, je passe le brevet, etc. Mais en même temps, Lego, pour la petite histoire, du coup, je commence à l'enregistrer ici. Je retourne au Gabon, les vacances qui suivent le décès de ma mère, bah, pour aller passer du temps avec mon père, etc. Et ma famille. Je vais dans un studio là-bas, je réenregistre, je rentre, ils volent le son.
Ils volent le son ?
Ils volent la prod de Lego. Donc, quand nous on sort Lego, il y a un autre gars qui sort son sur la même prod, sauf que sur la prod, c'est un sample de ma voix, littéralement. Et ils nous font passer pour les personnes qui ont volé le son. Et moi, en fait, c'était à l'époque de BBM, je reçois plein de messages tous les week-ends. Ouais, on était là-bas, il y a ton son qui passe. Ouais, on était là-bas, il y a ton son qui passe. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. Donc, quand j'arrive au Gabon, je me rends compte que le son, il est viral, en fait, il passe partout. Et avec mon producteur, donc ce qu'on décide de faire, c'est on va clipper le morceau, parce que le gars, en plus, il se permet de sortir son clip avant moi. Donc, tout le monde pense que c'est moi qui ai volé le son. Alors que je leur dis, mais vous êtes des ouf, c'est mon son, c'est ma chanson. Quand on prépare le clip, mon producteur, bah, pour prouver qu'on a le projet, en fait, on ouvre, on modifie la prod, on rajoute une fin à la prod, un peu à la Timbaland et tout, etc. Tout ça. Et le son sort, et nous, on fait striker sa version à lui. Et le truc, il pète, en fait. On commence à m'appeler partout, faire des dates. Tu vois, je commence à tourner ici, mais auprès de la diaspora gabonaise, je fais des tournées. Je suis en troisième, toute la semaine je suis à l'école, le week-end je suis en boîte, alors que je suis même pas majeur.
C'est dingue ça.
Ouais, tu vois, c'est comme ça que tout commence en fait. Donc oui, tu peux te dire que c'est super facile parce que ça tombe dessus et j'étais très jeune. Mais comme il y avait un cadre autour, bah, j'avais pas le temps de me dire ah ouais et tout, voilà. En fait, juste la semaine tu vas en cours, le week-end quand on veut bien, tu peux aller faire tes concerts, etc. Et ça a été une relation de confiance en fait avec ma sœur et mon beau-frère parce que j'étais avec eux ici. C'était mes tuteurs légaux. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été aussi très sérieuse parce que il fallait que je le sois, sinon je pouvais pas faire de musique.
S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui ?
Ma maman, tous les jours. Tous les jours, parce que en fait, elle savait déjà que j'avais ce truc artistique. En fait, elle décède au moment où j'ai vraiment accepté, où je me suis dit ok, j'allais faire de la musique, tu vois. Ouais, moi j'aurais aimé qu'elle voit tout ça en fait, tout ce que ça a donné, parce qu'elle disait toujours ouais, Vicky, vous verrez et tout. Quand elle aura 17-18 ans, elle va nous surprendre, elle va faire des trucs de ouf, etc. Tout ça. Donc oui, sans aucun doute.
Tu l'as dit, t'as vécu cette disparition. Il y a eu aussi la disparition de ton frère l'année dernière. Ce sont des choses qu'on n'est pas censé vivre tôt, comme ça.
Ouais.
C'est pas normal dans le cours de la vie. Est-ce que t'as ressenti une certaine forme d'injustice en ayant vécu ces deux événements ? Et comment on fait pour vivre avec ?
Bah, injustice, oui, parce que en fait, tu comprends pas trop. Moi, ça a toujours été ça, c'est que je comprends pas. Mais en même temps, j'estime qu'il y a des gens qui vivent trois fois pire, tu vois. Et c'est paradoxal de se dire ça quand on est en deuil. En fait, d'avoir ce recul, de se dire, ok, il m'arrive ça, c'est un truc de ouf, mais derrière, il y a pire, tu vois. Et comment tu fais pour vivre avec ? Juste, en fait, t'as pas le choix. Je pense toujours à une phrase qu'un de mes cousins avait dit à ma sœur, qui lui avait perdu son papa des années avant que nous, on perde notre mère. Il était venu quand on est arrivé au Gabon pour les obsèques de ma mère. Parce que ma mère est décédée au Maroc. Et son corps a été rapatrié après. Et en fait, il est venu à la maison et il a dit à ma sœur, t'as deux choix. C'est soit tu tombes et tu t'écroules comme moi je suis tombée, soit tu vis. Et tu vis bien, tu vois. Et ça m'avait super marqué parce que c'est ouf qu'ils se disent qu'il est tombé, tu vois. Je sais que c'est pas quelque chose qu'ils auraient voulu tous les deux, en fait. Parce que c'était des bons vivants. Mon frère, c'était un bon vivant. Ma mère, pareil. Juste, tu vis... Tu t'entoures bien. Et comme je t'ai dit, je suis croyante, tu vois. Donc quand ça me dépasse, et je dis pas qu'il y a pas des moments où ça me dépasse pas, il y a des fois où juste je suis là, je suis en mode ok, waouh, il s'est vraiment passé ça, alors que ma mère, ça fait 12 ans qu'elle est décédée, là mon frère, ça va faire un an bientôt. Mais des fois je suis là, je me dis ok, waouh, il s'est vraiment passé ça, et ça me rattrape. J'accepte que ça me rattrape, mais après je suis en mode ouais, non, il faut que j'avance, j'ai des choses à faire pour leur mémoire. Je suis obligée de faire des choses, je suis obligée de faire quelque chose de ma vie, tu vois, parce que eux, ils ont pas eu le temps pour aller au bout de tous les projets, de toutes les choses qu'ils auraient voulu faire.
Je suis en train de faire la synthèse de notre échange.
Ouais.
Entre tes débuts hyper jeunes, la célébrité, la notoriété, alors qu'on n'a même pas encore le brevet. Deux événements tragiques qui arrivent quand on n'a même pas 30 ans, finalement. Mais à quel moment tu as été jeune ?
Ouais. Je ne sais pas. Bah, en vrai, je pense jusqu'à 2012. Jusqu'à 2012, et après, fallait juste grandir. Moi, je sais que j'ai grandi trop vite et qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, que j'ai pas pu vivre, mais c'est comme ça, tu vois. Et encore une fois, j'ai vécu ça, mais il y a des gens pour qui c'est encore plus dur, tu vois. Même des personnes qui sont proches de moi. Moi, j'ai une de mes tantes dont je suis super proche qui a perdu 3 enfants. C'est des choses que, comme tu disais, que t'es pas censé vivre. Et quand tu vois des trucs comme ça, ça te fait prendre le recul sur beaucoup de choses.
Je l'entends beaucoup, cette volonté de relativiser tout. Mais parfois, est-ce qu'on n'a pas envie un peu de s'autoriser, de ne pas relativiser, justement ?
Si, je m'y autorise des fois, tu vois, mais en fait, tout de suite, je suis rattrapée par ce truc. Ok, bon, là, c'est bon, t'as craqué, tout ça. On repart. Tout le temps. Et je sais qu'il faut que je m'y autorise plus. Parce que je pense que j'ai le droit, comme tout le monde, c'est des trucs de ouf, en fait, qui se sont passés, tu vois. Des fois, je m'embrouille même avec des potes et tout, ils me disent, mais ouais, toi, tout le temps et tout, machin, chill et tout. Je dis, les gars, je peux pas. C'est plus fort que moi, en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui me fait tenir, en vrai, tu vois. De me dire, c'est tout droit. Maman, elle aimerait pas ça. Tout ce que je fais, tous les choix que je fais, tous les moves, tout ce que je fais, c'est, maman, elle aurait voulu ça. Donc, c'est vraiment tout droit, tu vois. Tout pour la mémoire de ma mère et d'aujourd'hui mon frère, en vrai. Et aussi pour que mon père, justement, puisse voir les fruits de ma réussite de son vivant, en vrai, tu vois. Parce que lui, il est là et faut qu'il les voit. Parce que pour lui aussi, ça n'a pas été facile. Tu vois, tu perds ta femme avec qui t'es resté marié 30 ans. C'est vraiment la mort qui vous sépare. Et tu perds ton fils. Tu vois, tu perds un de tes premiers garçons.
Vicky, hier, on a fait le présent, le passé. Que nous reste-t-il ?
Le futur.
Alors comment tu l'appréhendes le futur ?
De manière optimiste, je passe par beaucoup de phases. J'ai besoin de renouveau, j'ai envie de renouveau aussi. Je regarde beaucoup vers le Gabon, ce que je pourrais faire, parce que ici, j'estime que je suis bien, j'ai accès à pas mal de choses. On veut toujours mieux, mais c'est comment, du coup, grâce à tout ce que j'ai pu acquérir, apprendre ici, comment je peux le retransmettre là-bas ? Parce que là-bas, c'est un pays qui est encore en développement, c'est un pays dit émergent. Donc, comment, à mon échelle, je peux faire bouger les choses là-bas ?
T'essayes déjà concrètement de mettre en place des actions?
Oui, oui, carrément. On y travaille beaucoup. On y travaille beaucoup avec mon équipe. On en parle tout le temps. Tout le temps, j'ai toujours une pensée pour le Gabon. Dans tous les endroits où je suis emmenée à aller, j'en parle. Tu vois, là, par exemple, l'action la plus concrète, c'est par rapport dernièrement un projet sur lequel j'ai bossé avec ma chef de projet. C'est que là, ils viennent de voter le statut de l'artiste, tu vois, au Gabon, parce qu'avant, il y avait des artistes, mais c'était pas considéré comme un métier à part entière. Et donc moi, là, j'essaie en ce moment de structurer pour que les artistes puissent avoir leurs droits d'auteur. Donc je travaille avec le ministère de la Culture. J'ai pu emmener l'ancien ministre de la Culture à la SACEM. Il voulait rencontrer les gens de la SACEM depuis. Du coup, je l'ai emmené. La rencontre a eu lieu. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été données. On a appris pas mal de choses, comment structurer. Et du coup, donc, j'aimerais mener ce projet-là à terme, ou en tout cas le faire avancer du mieux que je peux, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en mon pouvoir. Si c'était en mon pouvoir, les choses iraient beaucoup plus vite. Mais je suis obligée aussi de faire avec ce que j'ai, en tout cas le pouvoir qu'on me donne. Donc ouais, tu vois, ça ce serait un exemple concret. Et je m'investis aussi pas mal sur tout ce qui est humanitaire avec ma sœur. Ma sœur a son association qui s'appelle Alovi, et l'association de notre maman qui s'appelle Solidaris Fort. Et on est très investi auprès d'un orphelinat à Oyem, qui est la ville natale de ma mère, où on fait des dons chaque année de matériel, de médicaments, des dons financiers aussi des fois. Et là, on a pour projet de construire une école. Donc on y travaille. Ça prend du temps, mais on y travaille.
Donc un avenir qui est un peu éloigné de la musique, finalement, j'ai l'impression, hein, dans tes projets. Ou alors c'est plutôt un vaisseau, là, la musique.
Oui,
finalement, ouais.
Ça restera ma passion. Mais j'essaie aussi de me diversifier. Tu vois, j'ai mon agence aussi qui s'appelle le Cercle. On essaie de faire des choses côté événementiel. Donc, et je pense que c'est toutes ces choses-là que je fais ou que j'ai envie de faire qui me permettent des fois de faire un break sur le côté musical et d'aller faire d'autres choses que j'aime et après revenir à ce que j'aime le plus en vrai, la musique.
On va y revenir à la musique, parce que l'EP, Lobby, se termine sur KME avec MC Solar.
Ouais.
C'est pas vraiment un feat, c'est plus un échange entre toi et lui. Est-ce que tu peux me donner le contexte de cette discussion ?
On avait déjà fait le morceau, on a réfléchi à plusieurs fins. En vrai, ce titre, je pense qu'il a beaucoup de fins alternatives. Solar, c'est un des OG qui est vraiment dans la transmission. Et je trouve que c'est important de transmettre. KME, bah, on a à l'Olympia. Et en fait, je vais le voir, je lui dis « Ouais, Claude et tout, je suis en train de finir mon projet. Je veux qu'on ait une discussion. Je vais te poser certaines questions qui vont t'emmener où j'ai envie qu'on aille. Et je vais l'enregistrer et je vais l'utiliser comme outro de mon projet. » Et du coup, donc, je lui parle du système, je lui parle un peu de mon ressenti au moment où je bosse le projet. Et je me rends compte qu'il capte direct et qu'il me donne des clés. Il a une longévité incroyable. Le mec, il tape une semaine d'Olympia, après il fait je sais pas combien de salles Playel, là il est en tournée des Zéniths, en octobre il fait la scène musicale, tu vois, c'est vraiment énorme. Et c'est quelqu'un à qui je m'identifie beaucoup. J'aimerais que quand je serai un peu plus avancé dans ma carrière, ou peut-être que quand je serai, je sais pas, vers la fin ou je sais pas, bah, j'aimerais être comme lui, transmettre, qu'il y ait des jeunes qui viennent me voir, qui me disent ouais et tout, Vicky, voilà, voilà, voilà. Et j'aimerais être au service de ces jeunes-là. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est au service de la jeunesse. Quand il m'appelle pour que j'aille jouer à l'Olympia avec lui, c'est incroyable. À aucun moment de ma vie, la Vicky, tu vois, qui est née au Gabon, ne se serait jamais dit qu'elle partagerait la scène avec un MC Solar, qui était une personne que bah, ma sœur écoute, mon beau-frère écoute, mon frère écoute. Et pour eux, c'est incroyable. À chaque fois quand je rentre à Lille et qu'il y a des trucs de famille, ils me disent « Alors, Claude, il vient !» Tu vois, ils font des blagues comme ça. « Ah ouais, tu l'as vu !» etc. Et ça, c'est incroyable. Et je disais que bah, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à la transmission, et le fait que je réussisse et que j'ai accès à des personnes comme ça aujourd'hui, bah, j'ai gagné déjà.
En parlant de suite, vu qu'on attendait dans un lobby, quelque chose arrive.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Je pense que ce sera un album. J'ai pas voulu faire d'album beaucoup parce que j'ai plein d'EP. Et à chaque fois, on me demande pourquoi t'as pas fait d'album tout de suite. Parce que c'est vrai, quand des fois tu signes en label et tout, ils veulent tout de suite faire un album. Bah, je me sentais pas prête, tout simplement, pour faire un album parce que j'estime que il faut avoir des choses à raconter. Il faut prendre le temps de vivre pour pouvoir les raconter. Et là, je me sens prête. Quand on a fini Lobby, c'est ce que j'ai dit direct à ma team. J'ai dit, ouais, là, je sens en moi. J'essaie beaucoup de m'écouter, tu vois, d'écouter mon ressenti, mes émotions, etc. Et je sens en moi que j'ai eu le déclic pour faire un album et peut-être l'album de ma vie, tu vois. Et je prendrai le temps qu'il faut pour bien le faire. J'aime pas aller trop vite. J'aime bien prendre mon temps. Je sais que la manière à laquelle évolue la musique, les habitudes de consommation aujourd'hui, on attend des artistes qui fassent des projets tous les 6 mois, etc. Mais je prendrai le temps qu'il faut pour faire ce projet-là. Tu vois, j'ai envie d'aller au Gabon, j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, j'ai envie de repartir à Londres, j'ai envie d'aller à Amsterdam. Parce que je pense que c'est que mon album, ce sera la somme de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai croisées, qui ont eu une influence positive dans ma musique, qui m'ont appris des choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut le temps pour le préparer et bien le faire.
Vickyer, je demande à toutes les personnes présentes de quitter ce studio. Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant 1 minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Vickyer.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule.
Alors, je dois me confier sur le sujet de mon choix. Je vais parler de la représentation des femmes dans l'industrie de la musique et notamment dans le rap. J'ai fait un morceau qui s'appelle Fuck le rap féminin, qui, je trouve, résume très bien mon état d'esprit par rapport à ça. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est arrêtons de genrer le rap, laissez les artistes féminines faire la musique qu'elles ont envie de faire, laissez-les être qui elles veulent, laissez-les s'exprimer tout simplement, prenez le temps d'aller les écouter. Et je vais parler aussi à tout le monde, prenez le temps d'écouter les projets des artistes, de partir, de revenir dessus, prenez le temps de consommer la musique parce qu'on en a besoin. C'est important pour notre évolution, c'est important pour la suite de nos aventures. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc streamez encore plus les artistes féminines aussi, les festivals, les programmateurs, tout le monde. Donnez la place à ces artistes. Voilà.